Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Liberté.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
Le seul incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Eh bien le bonsoir, vous êtes sur Radio Campus en 2.1 de la bande FM, mais aussi en DAB+, sur la zone de Bruxelles, mais aussi sur Radio Campus.be, tout attaché pour nous écouter à peu près partout en dehors de Bruxelles, parce que si vous êtes sur Bruxelles, utilisez les ondes courtes, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et vous êtes plus particulièrement dans l'émission Source, premier, troisième, vendredi du mois, où on va avoir le plaisir de prendre soin de vos oreilles pendant une heure et demie sur des thématiques qui touchent le logiciel libre. Alors, autour des micros, j'ai beaucoup de monde. Je vous propose que vous faites comme vous voulez pour vous présenter.
Moi, c'est Célo, comme d'habitude. Et hello, tout le monde.
Hello, moi, c'est Dumulus.
Et Jade. Et Frédéric.
Comment vous allez en cette belle journée avec un peu de grisade, mais pas tant?
Super bien. Oui, non, de grisade. Bientôt les grillades, oui, parce que le soleil est bientôt de retour. Ça va, ça va.
Et pour toi, Célo?
Il a fait plutôt beau, en fait, qu'une bonne partie de la journée, moi, j'ai trouvé. Donc,
S'embêter, ben oui. Dis.
Dimulus, même constat, même...
Oui, il fait même chaud, donc un plaisir.
Oui, oui, apéro du soir, bonsoir.
C'est le début du printemps, en plus. Donc,
c'est vrai,
enfin.
C'est vrai. Et pour toi, Chad?
Je me suis dit que heureusement qu'il va faire gris, parce que bientôt, c'est le festival du film scientifique.
Ah, ouh.
Oui.
On va pouvoir rester dans les salles obscures, aller voir des documentaires.
Oui, oui, si.
Tu préfères que la météo soit grisade pour pas trop déprimer, d'être enfermé à l'intérieur?
Ouais.
Autant en profiter quand. Voilà.
Moi, j'ai ça à chaque fois dans un centre des données, hein, où, bizarrement, c'est une super belle journée où on pourrait bronzer, boire des coups en terrasse. Et non, je suis dans une pièce fermée, mais je suis pas le seul. Hein. C'est lui aussi a vécu ces moments-là.
Oui, oui, et je dirais même, enfin, pas moi, mais qu'il y en a un qui a vécu ça hier, encore une merveilleuse journée ensoleillée où l'infrastructure de Neutrinet s'est cassée la figure.
Et c'est la vie. Et mais merci encore de la divinité de toutes ces personnes et des bénévoles de Neutrinet à essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est AGO qui s'est rendu dans le data center pour le nommer formellement. Du coup, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui, Frédéric? J'ai cru que tu avais un petit sujet.
Comme effectivement avec le printemps tout bourgeonne, eh bien nous avons, pour les fanas de retouches d'images, de création graphique, tout ça, mais le dernier GIMP vient de sortir, par exemple, oui. Ah, Dumulus, déjà de joie.
Oui, je suis heureuse.
Oui.
Il faut plus de GIMP dans la vie.
Oui, 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 GIMP tonique, c'est ça va devenir l'apéro des graphistes d'enfer. Oui, donc voilà, il y a de ça. On va peut-être laisser un petit peu de temps à notre camarade d'arriver depuis Braine-le-Comte. Ça vient un invité pour vous parler donc d'une grande journée le 30 mars prochain. Mais voilà, on lui laisse le temps d'arriver. On a jusque 19h30 de toute façon pour voir enfin, un petit peu ce qui se passe de bon, de bien autour, dedans, le libre.
Et dans Game 3, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a utilisé, testé, joué avec ou pas du tout?
Non, désolé.
Tout le monde se retourne vers demain.
Je n'ai pas encore essayé, mais j'essaierai demain, première heure, c'est sûr.
Et alors, j'ai un petit... Un petit test, ça faut vous faire, hein. J'aime bien vous ennuyer. Comment s'appelle la mascotte de GIMP?
Oh waouh, c'est dur.
Ah, ils l'ont changé aussi, c'est Wobber.
Exactement, wow. Et elle se paye un nouveau logo.
Ouais.
Enfin, un nouveau redesign pour cette version 3. Il y a plein de motifs, je suis en train de lire en diagonale le changelog, mais il est vraiment massif. Comme on dit, en gros... petit rappel de comment on lit le numéro d'un programme, parce que les logiciels libres utilisent souvent cette nommage-là. Donc il y a un premier chiffre, suivi d'un point, suivi d'un deuxième chiffre, suivi d'un point, suivi d'un troisième chiffre, qu'on appelle premier chiffre majeur, deuxième chiffre mineur et troisième chiffre patch. Ce qui veut dire que quand on change le premier chiffre, c'est un gros 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 changement dans le logiciel qui est censé casser la compatibilité des précédentes versions. Alors plein de logiciels font vachement attention pour pas que ça n'arrive, mais un changement majeur dit potentiellement que est-ce que GIMP est encore compatible avec des fichiers de la version 1 ? J'en suis pas sûr. Et après on a le numéro suivant qui est la version mineure, donc ça c'est des ajouts de fonctionnalités au fil des années, et ça peut incrémenter jusqu'à beaucoup beaucoup. Et là c'est juste le projet qu'on a ouvert dans sa version 0, donc 3.0, on sait qu'en 3.47 on pourra toujours l'ouvrir, c'est pas censé casser des choses. Et après, il y a le dernier chiffre qui est les patchs et qui est là des toutes petites modifications, plutôt des corrections d'erreurs, de programmation, ce genre d'éléments. Du coup, quand on vous dit que GIMP 3 sort, c'est une grosse nouveauté parce que changement de version majeure.
Et en plus, elle était attendue depuis un certain temps, c'est ce que j'ai lu, genre, pas 20 ans, mais.
8 ans, il me semble, qu'elle est en gestation.
Oui. C'est la dernière grande mise à jour. Enfin, GIMP 2.0 date d'il y a 8 ans, effectivement. Et ils n'ont pas vraiment joué avec les 3 points, les 2.5, 0.6, 0.8, comme parfois ça se fait. Donc là, ça reste à deux chiffres. Un boulot de fifou, parce que là, maintenant, il y a plein de scripts qui arrivent en plus. Il y a des palettes. Enfin, j'ai souvent eu, par le passé, des échos en disant « Ouais, GIMP, on n'arrive pas à Photoshop, gna. » Bon, on est vendredi, on peut dire des gros mots, hein. Je vais pas me reprendre, hein, je vous dis encore. Donc, c'est bien ça, mais alors, c'est que, en fait, la version de base, standard pour le KIDAM, mais effectivement, ils ont mis les fonctionnalités usuelles, mais ils ne savent pas à quel niveau de professionnalisme ou de technicité vous souhaitez arriver, hein, de devoir faire des petites choses. Et donc, en fait, déjà, à l'époque de GIMP 2.0, il y avait toute une communauté autour qui bosse à l'améliorer, à rendre plus joli. Il y avait même un plugin pour le rendre Photoshop-like. Ah oui, on installait ça, et ça changeait tout à fait le look du programme. Vous avez juste une petite texture en plus. Et donc, ça permettait à ce moment-là des gens qui sont très visuels. Mais bon, parce que l'icône, elle est là sur le bureau, et de telle couleur, de telle forme, si on la déplace de 3 cm, les gens sont parfois perdus.
Mais tu rigoles, mais moi j'ai une belle anecdote là-dessus. Dans des heures indéfinies de ma semaine, j'ai en donné restauré des trains. Et plus précisément des wagons de train, qu'on appelle aussi voitures. Et encore plus particulier, parce que c'était les 3 seuls wagons discothèques qui ont été produits en Belgique. Donc il y a une réplique qui se trouve entre Marienbourg et Traigne, le long des chemins des Trois.
Ah oui, quand tu parles de restaurer, c'est les remettre en état, les bijonner pour qu'ils reçoivent fonctionnel ou ce genre de choses, pas les restaurer d'une sauvegarde.
Non, c'est du matériel physique.
J'ai mis un peu de temps pour comprendre.
Pardon, c'est du matériel physique là, on parle. Donc physiquement, effectivement, c'est changer les vieux tubes néons par des plus modernes à LED, c'est... retirer toute la cuisine et la refaire pour avoir quelque chose de plus moderne. Et il y a tout l'espace DJ parce que c'est une discothèque roulante. Et j'ai dû mettre un petit PC, et pour pas trop perturber les humains et humaines qui gèrent ce PC, qui faisait pas grand chose, hein, juste diffuser du son. Un beau petit skin de Windows sur Cinnamon, ça fait très bien son illusion.
Eh oui. Voilà, on est quand même arrivé dans l'ère du visuel.
J'arrive pas encore à savoir si c'est un touch. Le fait que psychologiquement, vous mettez en place quelque chose que les gens vont faire, par exemple, mettre des notes de piano sur un escalier pour que les gens prennent l'escalier et pas l'escalator.
Oui, tu veux un nudge.
Un nudge, oui.
Voilà.
Je sais pas si c'est un nudge d'avoir mis le skin de Windows sur un Cinnamon Linux, mais j'en entends pas parler, les gens l'utilisent.
Ce qui serait comique, c'est que quelqu'un te dise « ça fonctionne quand même mieux maintenant que tu as mis du Windows plutôt que les Linux qu'on avait avant, franchement, merci.
» L'effet placebo se retrouve à plein d'endroits, hein, les plus insoupçonnés.
Et du coup, Photoshop, enfin, skin de Photoshop pour GIMP.
Mm-hmm. Oui, oui, voilà. Donc voilà, ça s'était déjà fait à l'époque. Mais en fait, en faisant appel à la communauté des gens qui se servent de GIMP et qui le customisent à leur sauce et qui mettent évidemment en partage leur amélioration. Hein, c'est la philosophie du logiciel libre dans laquelle on n'est pas tombé par hasard, bien sûr, comme Obélix. Mais voilà, il y avait aussi plein de type de pinceau, type de crayon, type de palette, enfin voilà, il y avait énormément de choses qu'on pouvait déjà ajouter au GIMP 2.0 de l'époque, et ce faisant...
Maintenant c'est inclus dans GIMP 3.0.
Voilà.
Hein, ce qu'il faut savoir sur les plugins sur Photoshop, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont essayé de faire la même chose, et en fait Photoshop les a bousillés, enfin a cassé leurs plugins pour être sûr que les utilisateurs n'utilisent pas d'autres performances que les leurs. Enfin, donc le côté propriétaire va jusqu'au bout. Donc le fait qu'il y ait des alternatives qui, elles, acceptent les plugins et du coup le travail d'autres personnes que les ingénieurs et les codeurs derrière les gros logiciels, c'est chouette.
Ah oui, ok.
Oui, en fait, ils faisaient donc surtout sur Illustrator, il y a eu des créateurs codeurs qui ont créé des bons plugins et à la nouvelle mise à jour, ils ont juste complexifié le code et donc le plugin pour que plus personne ne puisse l'utiliser. Mm-hmm. Donc voilà. Et je viens de regarder pour GIMP, c'est depuis 2004 donc que la 2.0 a été créée. Et 2018 pour la dernière version. Mm-hmm. Donc, bien attendu, effectivement.
Et j'espère que ça va en cette sphère pour plus d'un. Après, il y a toujours la grosse lenteur des mises à jour dans la distribution. Donc, n'attendez pas que ça apparaisse demain dans votre distribution favorite. Sauf ceux qui utilisent des distributions un peu avancées.
Casse-gueule ?
Avancer. Et donc je pense typiquement à Hintu, à Arch Linux, à Manjaro qui eux suivent les versions des programmes très très forts, enfin qui sont très à jour, comparé à une Debian, une Ubuntu, une Mint, etc. qui vont mettre un peu plus de mois et peut-être d'années avant d'intégrer GIMP 3.
Mais qui du coup vont l'intégrer potentiellement aussi au moment où il sera encore plus mature et
exactement.
Et donc dans l'idée en fait d'avoir quelque chose qui reste stable et où on risque pas tout à coup de se retrouver avec un programme à moitié dysfonctionnel.
Laissez les gens de enfin les humains de Hintu, Arch Linux, Manjaro se faire les dents sur les toutes nouvelles versions pour que quand ça arrive chez vous ce soit tout beau, tout mignon, tout propre.
Et dis-moi, l'intégration des logiciels dans le programme de mise à jour et d'installation un peu standard, habituel, des yaourts ou des synaptiques, par rapport au fait d'aller le chercher en Flatpak, par exemple, sur leur site, on a généralement leur dernière version avant d'être intégré dans le packaging complet. Flatpak, c'est fiable à tes yeux, à 60%, 70%, 90%.
Pour moi, 0%.
0%.
J'ai essayé de m'expliquer un chouïa. En fait, Flatpak casse complètement la manière que les distributions Linux ont de vous fournir des programmes. Donc, c'est quoi l'idée de Flatpak ? Flatpak, c'est une idée de... On va embarquer tout ce qui est nécessaire pour un programme qui puisse fonctionner dans une archive. Et vous, quand vous installez un Flatpak, en fait, vous installez plus que le logiciel, vous installez aussi tout ce qu'il a besoin pour fonctionner. Donc là, on retrouve un peu le système de Windows. C'est-à-dire que Linux, dès le départ, s'est dit, ce serait quand même malin que des morceaux de code qui sont communs à plusieurs logiciels ne soient pas réinstallés plusieurs fois et qu'on les partage. C'est ce qu'on appelle des librairies. Donc librairies, c'est des morceaux de code. Par exemple, il existe plein de librairies, et une librairie, ça peut être juste la gestion de la carte graphique. Mmh. Comment un programme dessine sur votre écran sa propre fenêtre. Voilà. Ça peut être une librairie. Tous les programmes n'ont pas besoin de réinventer la roue. On a juste besoin d'avoir une librairie commune, et si elle est commune, on n'a pas besoin de la réinstaller pour chaque programme qu'on ajoute. Et donc, Linux, depuis très tôt, a fortement utilisé le mécanisme de « on partage un maximum de librairies entre les programmes ». Mais ça a des inconvénients, c'est-à-dire que si un programme A a besoin d'une librairie dans la version 1.0 et que le programme B a besoin de la librairie dans la version 1.2, du coup, quelle version de la librairie on installe ? Et ça, c'est tout le travail des distributions et des maintainers, des packagers, de s'assurer, bah, tel programme a besoin de telle librairie dans telle version, du coup, la version qu'on va livrer avec la distribution sera dans telle version, et les programmes seront compatibles avec cette version-là de la librairie. Ça, c'est Flatpak. Comme il intègre les librairies au sein de l'archive, ces problèmes-là n'existent pas. Donc chaque créateur de Flatpak est libre d'intégrer la version de la librairie qu'il désire. Mais ça signifie aussi du coup que quand vous installez plusieurs Flatpak, ils ne partagent pas la librairie entre eux. Et donc potentiellement prendre plus de place sur le disque dur, potentiellement avoir plus de complexité, etc. etc.
Mmh, ouais.
En gros, on casse un peu la philosophie de Linux.
Mais... Oui, j'entends bien. C'est vrai que c'est vrai. Bon, maintenant, Trump, par rapport à la philosophie. on va pas prendre cet exemple sur cet enfoiré. Mais voilà. Mais ça reste quand même éventuellement une alternative.
Ça reste une alternative. Et il faut juste comprendre comment ça marche. Et ça marche comment ? Ça marche en ayant un programme qui intègre tout ce qu'il a besoin comme dépendance au sein de la même installation.
Mmh. Ok.
Parce que... Tel que tu le dis, apparemment, donc il est dans son propre petit bac à sable.
Exactement.
Et donc il n'interfère absolument pas avec le reste de la machine.
Yes.
Mais donc tu vas. Je pensais plus que tu allais dire quelque chose du genre. Alors il faut commencer à le maintenir soi-même, il faut commencer à faire attention. Tu ne pourras pas utiliser le microcosme de mise à jour. Et donc il faut rester à jour sur chaque.
Bah, du coup, étant donné que Flatpak, c'est un autre gestionnaire de logiciels, c'est avec cet autre logiciel de logiciel qu'il faudra continuer à maintenir, à mettre à jour, etc. Il y a aussi un autre problème, c'est que comme Flatpak n'est pas installé globalement au système, que c'est chaque fois unique par utilisateur, si deux utilisateurs sur la même machine installent le même Flatpak, ce ne sera pas partagé. Comme tu l'as dit, c'est dans son propre bac à sable, donc c'est vraiment limité dans son environnement, et du coup, c'est vraiment indépendant de chaque utilisateur.
Et donc, si tu as un bon gros programme de 100, 200, 500 mégas, ben, tu vas multiplier par autant d'utilisateurs qui autrement pourraient le partager.
Mm-hmm. Et après, tout ça
peut... Et peut-être pour donner un ordre d'idée, parce que en fait, je trouve parfois intéressant de donner un ordre d'idée entre les deux. Là, j'ai pris par exemple... donc j'ai mon ordre, on a souvent nos ordis à côté de nous quand on est à source. Et donc, j'ai regardé dans mon gestionnaire d'installation de programme la différence pour... j'ai pris comme exemple le client de synchronisation Nextcloud, donc client de synchronisation de données du système de cloud Nextcloud.
La Rolls du moment.
La Rolls du moment. Si on compare en fait la taille que va faire ce client, qui est déjà quand même un assez gros logiciel dans les dépôts de Debian, on est à 5 mégas. Et si on le prend en Flatpak depuis FlatHub, on est à 118,8 mégas. Donc c'est quand même, ça peut être pas du tout le même ordre de grandeur quand même sur un même paquet.
Fois 20, 22 quand même.
Voilà, mais c'est parce que donc toutes les librairies, les sous-programmes, etc., sont bien inclus dans le Flatpak, et donc là, il va pouvoir fonctionner de manière un petit peu plus universelle aussi. Je veux dire, le même Flatpak, on peut le faire tourner avec les librairies Flat dans un Mac ou dans un Win ou dans un Lean.
Je sais pas si c'est Win et Mac, mais entre Linux, oui. Mm-hmm. Effectivement, c'est l'avantage de Flatpak, c'est que c'est universel à toutes les distributions. C'est un peu ça que ça essaye de répondre, c'est ne plus dépendre, en tant que développeur et développeuse, de produire une archive qui, on sait, peu importe la distribution qu'on a devant soi, on pourra l'installer.
Et qui, du coup, apporte aussi une dimension de facilité, finalement, pour les utilisatrices et les utilisateurs, qui ne sont pas forcément toujours des personnes qui vont être à l'aise avec le fait de taper des lignes de commande, ou des personnes qui sont à l'aise avec l'informatique, puisque dans certains cas, on va avoir des programmes où soit on utilise effectivement le logiciel tel qu'il s'intégrerait à la distribution Linux, mais il faut potentiellement rajouter un dépôt pour pouvoir y accéder. Ce qui, en fait, potentiellement demande d'aller taper des lignes de commande, parce que parfois on peut le faire aussi depuis l'interface graphique, mais c'est souvent la ligne de commande qui va être mise en avant sur le fait de. Enfin, quand on va chercher comment installer le logiciel. Et donc, en fait, si on n'est pas à l'aise avec cet outil-là, ce qui est quand même le cas de beaucoup de gens, c'est pas évident d'installer ces logiciels-là. Et ça peut donner aussi un sentiment un peu d'impuissance et de perte de contrôle vis-à-vis d'un outil qui pourtant est censé un peu redonner du contrôle par rapport à un Windows, par rapport à un Mac. De faire que finalement la personne se sent pas à l'aise parce qu'elle voit qu'elle ne sait pas installer tous les logiciels qu'elle aurait envie d'installer. Et là, dans ce cas-là, ce type de dispositif comme Flatpak, comme les AppImages, ou aussi les Snaps qui sont développés du côté d'Ubuntu, vont aussi permettre finalement un peu plus de facilité. Alors ça va plus remplir le disque dur de la personne, mais en même temps, ça va permettre d'installer via l'interface graphique comme un autre logiciel. Des logiciels qui ne sont pas forcément au départ dans les paquets prévus de la distribution Linux.
Je dirais, pour compléter, le seul bémol d'utiliser AppImage, Flatpak, Snap, c'est à peu près la même logique de fonctionnement. C'est là où j'ai un petit doute sur, je ne sais plus lesquels mutualisent quand même les librairies entre plusieurs, soit Flatpak, soit Snap, soit AppImage. C'est là où j'ai un petit trou de mémoire, mais je sais qu'il y en a certains qui, si deux programmes ont besoin de la même version spécifique de la même librairie, ça va être partagé. Mais si c'est deux versions différentes de la librairie, ça va être téléchargé. Le point d'attention que je dirais, c'est comme autant AppImage, Snap et Flatpak tournent dans des bacs à sable, ces programmes-là n'ont pas un accès complet à votre système. Si par exemple vous installez un navigateur dans un Flatpak, ou en Snap, ou en AppImage. Par exemple, le lecteur de garantie ne pourrait ne pas être reconnu.
N'est pas, en fait. C'est un cas concret qui arrive beaucoup avec les dernières versions d'Ubuntu. D'abord, depuis la 22.4, Firefox est passé en Snap, et depuis la 24.4, maintenant même aussi Thunderbird, et où beaucoup de gens ont des problèmes, parce que du coup, autant dans d'autres pays, ça peut faire sens de dire on va isoler le navigateur du reste du système pour des raisons de sécurité, qu'en plus ça va avoir un impact positif de ce côté-là. Et en fait, en Belgique, comme le lecteur de cartes est vraiment indispensable pour faire tout un tas de trucs, c'est beaucoup plus difficile finalement d'utiliser Linux, d'utiliser Ubuntu avec le Firefox qui est automatiquement mis au format Snap et qui est passé au format Snap, même si précédemment on l'avait pas en Snap au moment de l'upgrade ou au moment de mise à jour, parce que du coup ça va casser une habitude que les personnes ont et de compatibilité.
Mais alors là, petite astuce dont le BXLUG du dimanche recèle, c'est qu'il y a tout à fait moyen de installer Firefox via Synaptic, via le programme d'installation lié à la distribution. Voilà, on en a deux possibilités.
Et pas dans la dernière version de Ubuntu.
Ouais, et souvent il te le remet en fait. Enfin, moi ce que j'ai constaté, c'est que parfois tu le retires, tu désnapises Firefox et en fait il resnapise Firefox. Et alors moi j'avais testé en me disant je vais installer la version ESR de Firefox, qui est une version un peu destinée destinée à être stable, qui est une version différente en fait du paquet Firefox, qui est beaucoup plus évolutif.
En gros, la ESR, c'est l'équivalent de la LTS dans Ubuntu, donc c'est des versions qui sont vraiment prévues pour tourner sur plusieurs années.
LTS, Long Time Support. Hein.
Exact.
Radio Campus, une radio à vocation didactique. Mais en plein dedans. Merci. Madame Dou, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On est vendredi de 1, mais voilà, Radio Campus, une radio didactique.
Voilà.
Un peu technique, c'est ça qui est bon, non? Ou on fait
du niveau universitaire.
Mais laissez-moi quand même vous raconter la fin de mon anecdote. Anecdote, parce qu'elle vaut la peine. Parce je me dis, en fait, on va installer le Snap dans cette version-là, le Firefox dans cette version-là, et du coup, normalement, le Snap ne devrait pas revenir. Et en fait, le Firefox en format Snap revient quand même, donc les personnes se retrouvent avec deux Firefox sur leur ordinateur. Il y en a un ou l'autre qui s'ouvre en fonction de quand elle l'ouvre depuis la barre depuis le dock, la barre sur le côté. D'autres qui s'ouvrent par défaut où ça va ouvrir l'autre version, et du coup c'est vraiment pas du tout pratique.
Et c'est le même logo, donc tu sais jamais laquelle tu as.
Voilà. En fait, en tapant ESR dans la barre de recherche, on sait lequel est le ESR, mais
ça
fait des trucs vraiment, vraiment pas pratiques. Ouais. Et pour ça, Ubuntu est quand même assez problématique, je trouve, pour tout ce qui est, pour toutes les personnes ici en Belgique, quoi.
C'est pour ça que quand on parlait de est-ce que c'est bien ce type-là de distribution de programme, donc qui est exclu en fait de la manière que le système global Linux a de gérer les programmes, parce qu'on est vraiment là sur une deuxième gestion, en fait c'est un deuxième gestionnaire de paquets qui tourne en parallèle de votre premier gestionnaire de paquets qui est fourni avec la distribution. Les limites, elles sont ce qu'on a exprimé ici, que Bah, ces applications dans ces bacs à sable-là n'ont pas accès à votre système complet, pas spécifiquement accès à vos fichiers, pas spécifiquement accès à vos périphériques, et que dans certains cas d'usage, bah, c'est bloquant. Donc, quand tu poses initialement la question de à combien de pourcents je fais confiance à Flatpak, je dis zéro, parce que avec toute la discussion qu'on vient d'avoir, je ne peux pas m'empêcher de dire c'est plutôt un retour en arrière. Ça complexifie des situations qui étaient simples initialement pour répondre à un usage qui est que pour avoir des programmes fonctionnels dans Linux qui ne bug pas, il faut les tester longuement. Et du coup, la dernière sortie d'un programme ne sera pas dans votre distribution rapidement. Et ça peut générer de la frustration qui est non, mais en fait, moi, je veux absolument avoir la dernière version de ce logiciel-là. Mais du coup, il y a des distributions qui sont spécifiques à ce cas-là d'usage, mais qui sont conscientisées des utilisateurs et utilisatrices. S'ils ne le sont pas, bah, le logiciel met parfois plusieurs mois, plusieurs années avant d'arriver dans une version plus à jour, mais avec la garantie que ça marche.
Et par rapport à ce que tu disais, Célo, sur les lignes de commande, ajouter des repos et des trucs comme ça, peut-être que ça, en fait, aplatit la courbe d'apprentissage pour passer à ça. Peut-être que c'est une bonne manière pour commencer. Et puis, au fur et à mesure, je me pose la question en vous entendant, peut-être que c'est une bonne manière de se dire, tiens, cette solution est là, est pas bonne, mais plus facile. Et le jour où j'aurai appris à faire de la ligne de commande, alors je pourrais passer à des choses plus standards, je sais pas.
Oui.
Ou pas.
Ben, je pense en fait l'enjeu de montrer la ligne de commande dans cette situation-là, c'est que en fonction du Linux qu'on va avoir et surtout de l'environnement de bureau qu'on va avoir, la procédure n'est pas la même, mais en ligne de commande est toujours la même. Donc en fait, on a intérêt à documenter plutôt la ligne de commande sur comment installer ce type de logiciel plutôt que d'aller dire, et c'est long pour écrire des tutos sur des logiciels, en fait c'est long aussi d'aller expliquer, oui vous allez dans tel menu, vous allez ajouter tel truc à tel endroit, dans telle case, puis vous cliquez sur le bouton à droite, et puis ensuite vous cliquez sur continuer, et puis ensuite, et en fait la ligne de commande est un côté beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus efficace, mais il y a un côté peut rebuter. Après, c'est aussi en faisant des manips un peu moins critiques que dans cette manière-là qu'on peut se mettre aussi à plus utiliser la ligne de commande. Pour des personnes qui ont aussi envie d'apprivoiser l'outil de ce point de vue-là, qui ne sont pas forcément le commun des mortels.
En son temps, quoi, passer à la ligne de commande, ok, je me suis familiarisé. J'y arriverai pas.
T'es habitué.
Habitué, merci. d'y passer, puis un jour, avec des discussions comme ici, se rendre compte, tiens, au fond, mais il y a mieux, il y a plus efficace, il y a plus court, c'est aussi simple qu'une ligne de commande qu'il suffit de trouver à tel endroit, oh, youpi, ça marche, et ça, c'est 6 mois après, quoi.
Et en même temps, c'est un aveu d'échec. En même temps, ça n'avait d'échec dans le sens où, sous Windows, combien de fois tu as dû sortir les lignes de commande pour pouvoir installer un programme ?
Il y a vraiment très longtemps. Avant, il fallait une ligne de commande pour lancer Windows, mais il y a vraiment très longtemps. Je vais passer pour le vieux con ici.
Quand il y a la transition MS-DOS à Windows NT, donc on commence à avoir une interface graphique dans Windows.
En fait, quand la ligne de commande de Windows, vraiment, franchement, ça vient après. De temps en temps, tu apprends un LS, quoi, des choses comme ça. Et sur Windows, tu dis, youpi, je vais plus loin que le système avec la ligne de commande. Youhou, ça existe, ça fonctionne. Et en fait, de se rendre compte que tout, avec tous les boutons, les clics et des trucs comme ça, ce sont des lignes de commande. Donc le jour où tu apprends ça, tu te dis... en fait, oui, évidemment, la ligne de commande, c'est efficace. Et c'est un monde merveilleux, fantastique et infini de la ligne de commande.
Ouais, c'est ce qui fait la différence entre cuisinelibre.org et Picard.
Oui. Mais ils sont tous les deux surgelés.
Oui. Après, je ne sais pas quand même si c'est une bonne comparaison dans la mesure où... pour moi, c'est légitime aussi à des moments d'avoir envie de potentiellement, d'avoir besoin d'un logiciel et d'être pas forcément d'avoir pas forcément des envies techniques jusqu'à celle de maîtriser la ligne de commande, même si peut-être que oui, on se rendrait compte que c'est plus intéressant, mais ça, je pense que c'est légitime aussi en fait d'avoir d'avoir le, comme demande de pouvoir faire des choses dans une interface qui est plus compréhensible, qui est plus user-friendly. Et je pense que c'est une démarche qui... Bah, qui est reconnu aussi, par exemple, dans un projet comme Winehost, qui est du coup un logiciel qui se greffe sur, sur Debian pour faciliter la gestion d'un serveur et permettre à chacune et chacun qui a envie de mettre un peu les mains dans le cambouis, mais pas trop, de commencer à auto-héberger du mail, des clouds, des applications web, de faire de l'auto-hébergement et de démocratiser en fait cette pratique-là versus les grandes plateformes, de pouvoir se réapproprier aussi de l'hébergement et soi-même. Et en fait, qui font la démarche de dire, bah oui, il y a un outil en ligne de commande dans Winehost pour faire les choses en ligne de commande, qui se greffe aussi par-dessus le jeu de commande de Linux habituellement, mais il y a aussi une interface graphique qui est accessible via une interface web où en fait on peut faire à peu près tout via l'interface web, que ce soit ajouter des utilisateurs, des utilisatrices, que ce soit mettre à jour son serveur, que ce soit redémarrer son serveur, que ce soit faire une sauvegarde de son serveur, que ce soit redémarrer des services sur son serveur, ouvrir des ports dans le pare-feu. En fait, tout ça peut être fait via une interface graphique et en fait, ça va faciliter aussi pour beaucoup de gens de pouvoir prendre en main ce qui relève finalement de l'administration système. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait jamais de moment où c'est intéressant d'aller en ligne de commande, ça arrive. Mais voilà, l'idée, c'est en fait que la plupart du temps, les gens puissent utiliser ça de manière vraiment, voilà, sans même recourir à la ligne de commande. Et en fait, je trouve quand même que c'est une approche intéressante dans l'idée de se dire qu'en fait, pour se réapproprier ces données, ce qui est aussi un peu, d'une certaine façon, un acte politique vis-à-vis du numérique tel qu'il se déploie autrement, bah, c'est finalement donner une capacité aux gens de faire des choses. Mais sans leur demander d'aller vraiment creuser des aspects techniques. Et en fait, je pense que ça fait sens aussi de pouvoir utiliser seulement cette interface tout à fait graphique. Et ça ne veut pas dire qu'on n'apprend rien, parce qu'en plus, l'interface graphique en question est très pédagogique, mais sur les aspects de gestion de serveur. Mais voilà, d'avoir en fait un... Et je trouve que la démarche de Winehost est bien de dire, ben voilà, on va...
Ouais, il avait expliqué... Il avait expliqué, j'ai retrouvé les notes ici en août, au Caldarium. Mm-hmm. Ils avaient bien expliqué ça. 16 août, pour retrouver dans les podcasts.
Ça viendra.
Tu as tes notes de source, en fait.
Oui, c'est pour ça que c'est des petits... le carnet comme ça, et puis je peux réorganiser les pages et tout.
Incroyable.
Et du coup, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on disait est-ce qu'on a besoin de la ligne de commande et que je trouve que c'est un échec, parce qu'on ne devrait pas, parce que la ligne de commande est quand même une barrière technique assez forte.
Ben oui.
Pour ceux qui ont connu le DOS et puis la transition avec Windows NT, ok, fine, ouvrir un terminal, c'était le commencement de votre journée. Pour ceux qui ont découvert, si je reste que dans le monde de Windows, hein, qui ont commencé à découvrir Windows avec soit XP, soit 7, soit 10 et puis 11, ils savent pas où est le terminal de Windows. Ils n'ont pas à le savoir.
Mais ça a été obfusqué, parce que moi j'ai encore dans ma bibliothèque, je retrouverai ça à un moment donné pour le musée du capitalisme, la belle époque de Windows, je crois qu'on était en 95 avec Windows 98, Microsoft fournissait un bouquin avec leur base de commandes DOS que l'on pouvait soi-même appliquer pour améliorer la mémoire, accélérer le transfert. Et donc à cette époque-là, Microsoft nous considérait, en bonne partie encore de la population, comme des gens... je veux dire intelligent ou consommateur. Parce qu'on cuisine soi-même ou on achète Picard. Voilà, Picard, on est un peu con-con. C'est quand même plus chouette de cuisiner soi-même. On met vraiment les goûts qu'on veut et la cuisson qu'on veut, tout ça, tout ça. Mais donc, oui, Microsoft a laissé tomber ce beau petit livre.
Mais non.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de différent entre, par exemple, Winehost ou le fait d'utiliser l'interface graphique pour administrer son Linux et le cas que tu décris. Ou de Windows, parce que dans Windows, il y a quand même un côté d'opacité, finalement, de ce qui se passe. Bon, oui, on peut installer des logiciels, encore. On n'a pas besoin de demander à Microsoft, quoique.
Pour l'instant.
Mais voilà, c'est une boîte noire, après, derrière, la manière dont ça fonctionne et ce que ça fait. Et effectivement, quels autres programmes qu'on n'a pas forcément installés soi-même sont installés. Enfin, voilà, c'est pour le coup, c'est le Picard complètement...
Et je suis très d'accord avec toi, tu viens de dire boîte noire, et je trouve ça très réel cette idée qu'il y a maintenant le terminal, c'est vraiment quelque chose qui paraît un peu avec toute cette imagerie du hacker et tout, mais qui paraît totalement inaccessible et qu'on peut jamais vraiment comprendre. Moi, la première que je ne comprends pas et que je n'utilise pas, mais en même temps, c'est là où tu te rends compte que tu peux rentrer dans travailler avec l'ordinateur et pas contre. Mais c'est là où l'interface graphique est hyper intéressante, c'est qu'elle permet de comprendre petit à petit, enfin de faire le chemin petit et pas juste de rentrer et de ne pas comprendre ce qui se passe.
Mmh. Ouais, ouais.
Bah, de toute façon, je pense que la ligne de commande, on va toujours encore plus loin, entre guillemets, qu'avec l'interface graphique. Mais le fait d'avoir déjà une interface graphique qui permet de faire ce qu'on a envie de faire avec son ordinateur, pour mais moi, c'est pas du côté de Picard, quoi.
Oui, je suis d'accord. Et les logiciels, en gardant une interface graphique, ils promettent qu'ils peuvent rester accessibles à tous et toutes les personnes qui veulent essayer de se mettre à ces logiciels-là.
Mmh. Ça dépend surtout de ce qu'on veut faire, finalement.
Oui.
Même toi, si tu as une affiche à faire, par exemple, tu vas pas la faire en ligne de code, enfin...
C'est possible.
Tu veux faire un petit carton d'invitation pour une fête, ok, tu y vas et tu peux utiliser. Donc même la personne qui sait faire de la ligne de commande n'a pas toujours besoin de le faire.
Mmh.
La personne qui ne sait pas, j'imagine une association qui fait une fête de quartier, qui veut vite faire quelque chose, il lui faut un outil. N'a pas besoin de tous les détails dont ceux qui parlent graphisme ou si on parle de son, par exemple, un effet qui est placé. Moi, je vois j'entends aucune différence. Donc, ça dépend de pas uniquement de qui fait quoi, mais c'est aussi de quand on fait quoi.
Et puis, l'interface, elle donne des indices, parce que quand on parle d'une interface graphique, par exemple, qui va mettre une gomme, on sait que derrière, il y a une ligne de commande qui efface et ça n'a rien à voir avec la gomme matérielle qu'on a dans les mains. Et en même temps, on crée un parallèle qui permet de comprendre ce qui se passe. Pareil avec la poubelle ou plein de dossiers.
Et en plus, tu peux explorer toutes les icônes, découvrir, aller jouer avec, explorer les menus. Souvent, les icônes, ce sont que des raccourcis vers des commandes dans les menus. Donc, aller apprendre. C'est peut-être plus difficile dans la ligne de code d'aller chercher tout ça, de le découvrir, même si on sait qu'il y a des commandes. Il faut les commandes déjà, donc help et ce genre de choses. Et donc, on peut avoir toute la liste des commandes qui sont là. Donc, voilà. Finalement, c'est...
C'est en fonction des usages, oui.
Qu'est-ce qu'on fait, qui le fait. Et à ce moment-là, avoir le bon outil. Et t'as peut-être pas tous les jours envie de cuisiner. De temps en temps, un bon petit plat surgelé. pas nécessairement de chez Picard. pour aller manger.
Ça va devenir un placement de produit à cette émission.
Non, mais ouais.
Pour aller manger dans ton bac à sable.
Ouais, à propos de Picard. Non, mais un Ricard, sinon rien. Pas une pause apéro?
J'entends l'appel. Mais juste du coup, pour clore un petit peu le sujet, pour terminer ce que j'avais essayé de commencer à expliquer, ce qui est magnifique avec Linux, c'est le choix laissé à l'utilisateur, l'utilisatrice. Et l'inconvénient que ça vient avec, c'est que du coup, pour expliquer la même action dans les différentes manières d'interface que Linux l'interface graphique que Linux peut prendre, fait qu'on vous demandera plus rapidement de sortir le terminal. Comme c'est le way exprimé, parce que du coup, il faut juste l'expliquer une fois. Comme Windows n'a qu'une seule interface graphique, comme Mac n'a qu'une seule interface graphique. Donc c'est facile en fait de vous expliquer le chemin graphique dans ces environnements-là, parce qu'il n'y en a qu'une seule. À Linux, je connais au moins 7 environnements de bureaux différents. Du coup, ça veut dire qu'à chacune qui écrit la documentation de faire toutes les captures d'écran dans les différents environnements de bien décrire, alors que le terminal c'est que du texte, c'est un copier-coller et c'est fini. Par contre, la contrepartie, c'est que c'est vraiment compliqué, je trouve, quand on a des personnes qui sont débrouillardes mais qui ont peur de la ligne de commande, de les voir frustrées, d'être bloquées parce que, si au moins il y avait un outil graphique facile pour le faire. Alors, il existe, il est là. Parce que, par exemple, je pense typiquement à rajouter des repos d'applications dans la distribution. Ça peut se faire en visuel, juste personne ne l'explique.
C'est l'apérobic. À elle, le GIMP. À moi, le tonic.
D'où ça, à partir de GIMP, hein, je rappelle.
Ouais. 3.0, il vient de sortir.
Et du coup, je vous propose...
un super rendu maintenant des calques. Il est non destructif maintenant.
Ah oui. Alors, moi, je comprends ta phrase. Je suis pas sûr que tout le monde comprend
mais non,
ta
bien
phrase.
Bien sûr, mais c'est un teaser, c'est pour que.
Vous alliez le tester chez vous, sur vos écrans.
Ouais, ouais, voilà, voilà.
Et pour ceux qui ont peur, attendez le 3.0.1.
qui va sans doute arriver dans pas longtemps.
Premier petit bug.
Ah, mais pour les aventureux, testez maintenant. Hein. Et comprenez que faites pas grand chose de pro avec, hein, parce que ça peut cracher à tout instant.
Avec 7-8 ans de travail, ça doit être bien quand même.
Non, ouais, j'ai déjà vu d'autres. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes. The wind is The day is calm. Nothing changes lately in this old house. Tiny spaces and giant doubts. What is gonna happen next? Serve me another cup. But the weather has changed and left untangled the choices we made when all hope was gone. Now we are stuck within these four walls, and I can hear the wolves howling.
Sorrow sweepstakes, she is on his mind. double Jackson milkshakes. When his heart breaks, he will be just fine on an island far away. Kevin is somewhere else, sitting alone at the hotel bar, drinking to untie the knots that bind him to his ugly parts. Early aughts October, he is older than he thought he'd be. 2 days clean and sober, starting over his recovery at the park on Saturday. Kevin is in his head, sleeping it off in the ICU. Carnival incantations, jubilations of another youth. She looks at him so sweetly, he'd be happy to be her best friend. Someone else completely, but even then he feels the same again. You will never be okay. B-52 and be stern on your first day, or the kids walk over you. Seventh or eighth grade, every one of us sing. Thumb moves under the third finger when you play the chromatic scale. I know. You better fall in, curtain call in, whatever it is, we were all in. Every single eye up front, oh, she'll stop your performance. We're shaping, heartbreaking, listen to the music we're making. We're better than we thought we'd be, one more thread in a tapestry.
pay for the whole seat when we only used a few inches of our chair. And when it was your turn to sing, you'd better be prepared. Everyone must understand that you sing from your diaphragm. And when I hear somewhere over the rainbow, I always think of you. I do. You better fall in, curtain call in, whatever it is, we were all in. Every single eye up front, oh, she'll stop your performance. We're shaping, heartbreaking, listen to the music we're making. We're better than we thought we'd be. One more thread in her tapestry. Every couple of years we take a trip out with the choir. The chaperones would all take shifts just to keep the boys in line. Me and Mitch, we had a plan. I would be his wingman. I made out in Disneyland with a girl from Arkansas. You better fall in, couldn't call in, whatever it is, we were all in. Every single eye up front, oh, she'll stop your performance. We're shaping, heartbreaking, listen to the music we're making. We're better than we thought we'd be. One more thread in a tapestry. Quiero ganar siempre que pueda y nunca perder, y nunca perder. Yo tengo mi orgullo que quede claro, no volveré atrás, nunca vuelvo atrás. De haber sabido cómo ni un poquito más, no le apostaba ni un poro.
habría salido tan retranquila.
Decided to go.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus, dans 2.1 de la bande FM, mais aussi en DAB+, si vous avez des autoradios ou des radios numériques, mais aussi si vous avez un équipement numérique, radiocampus.be, vous pouvez nous écouter à peu près partout. Et du coup, vous êtes dans l'émission Source, premier et troisième vendredi du mois, de 18h à 19h30, où on essaie de parler de logiciels libres et de ses communautés. Et ce que j'allais vous demander, maintenant que vous pouvez parler, hein, parce que c'est quand même mieux.
Ah, merci.
Déjà, pardon. Autour des micros, nous avons Chad, Dumilus, Fredix, Cello et moi-même, Terry Rock. C'est bien de se réannoncer, parce que quand on prend ça en cours de route, c'est plus compliqué de remettre des pseudos sur des voix.
Oui, oui. Et comme on a fait une longue effet boule de neige sur Gimp, on fait une très peu de pause musicale, donc tu es dispensé de désannoncer les super morceaux en Creative Commons que nous avons écoutés. Tout va bien de ce côté-là. Dumulus, serait-ce bienvenu d'éventuellement d'oser te demander un petit récap de ce que tu fais donc dans ton stage à Bruxelles, et donc depuis la dernière fois où on s'était entendu ici autour des logiciels libres et du graphisme, si comment, ou voilà, petite chose.
Je peux totalement raconter ce que je fais. Actuellement, on vient de finir notre prospectus pour les ateliers d'ECA, donc que Cello, tu peux présenter si les gens ne savent pas ce que c'est.
Du coup, c'est les ateliers qu'on fait au DECA chaque second lundi du mois, où à chaque fois on a une rencontre autour des questions liées au numérique, qui parfois sont des présentations, parfois des tables rondes, parfois des ateliers, parfois des conférences gesticulées, comme la dernière fois, qui peuvent prendre un format varié et qui ont le but en fait de réunir des gens et aussi de leur permettre d'un peu réfléchir autour du numérique, avec une partie informelle aussi pour un peu discuter.
Oui. Et du coup, ça a manqué peut-être de flyers et de communication. Donc ma première mission en tant que stagiaire chez Tactic, c'était de proposer peut-être des flyers. Et du coup, on est en train de développer un petit outil qui permettrait, je ne sais pas comment simplifier ça, mais du coup, en utilisant les outils de Web2Print, qui sont des outils, du coup, on parlait de ligne de commande, c'est comment... à partir juste de code, est-ce qu'on peut créer des objets imprimés? Et du coup, là, ce serait un outil qui permettrait de créer peut-être plus facilement des flyers pour parler des ateliers d'ECA, les partager. Donc, c'est en construction encore. Mais n'hésitez pas à aller venir les voir aux ateliers d'ECA.
Où est-ce que c'est, l'atelier d'ECA?
Au DECA, rue du Danemark, à Saint-Gilles. Mais oui.
De Danemark. on se trompe tout le temps.
Oui.
Mais oui.
Et le prochain, c'est avec Corentin de Bailleul, qui va nous parler de la police prédictive et nous faire un peu. Je sais pas.
Oui, donc ce sera pour le 14 avril, ça excède notre agenda habituel des deux semaines. Je vois Fredux qui hoche la tête un peu en
parfait,
râlant.
Parfait, mais oui,
ah
oui.
Ah non,
bah,
parfait.
Non, bah...
Et oui, effectivement, du coup, une rencontre autour un peu d'un état des lieux de qu'est-ce qui se fait en Belgique en termes de prédiction des crimes via des algorithmes.
Et de l'IA, comment est-ce qu'elle va s'introduire là-dedans?
Voilà. Et qui est aussi en lien en fait avec un rapport que Statewatch et la Ligue des droits humains, dont les deux ligues des droits humains francophones et néerlandophones, ont réalisé. Et du coup, d'ailleurs, si vous visitez le site des ateliers d'ECA, il y a moyen aussi de demander à avoir ce rapport. Il faut remplir un petit formulaire pour dire en gros, on a envie de récupérer aussi ce rapport-là en marge de la rencontre.
Il y a un formulaire wall. Un cookie wall, un formulaire wall. Il faut remplir un formulaire pour y avoir accès.
Mais ça va, c'est Framaform.
C'est un Framaform. Donc, ça va.
Sans juste. Oui.
Oui, oui, oui. Ben bravo, Dumulus. Quel enthousiasme, en tout cas, pour faire bouger la vie numérique bruxelloise dans le sens du librisme en plus. Ah voilà, je crois qu'il va y avoir un petit peu de bruit dans nos studios. Chouette, ça bouge.
On a enfin notre invité qui arrive, qu'on attendait quand même depuis vraiment longtemps. Malheureusement, il s'est planté d'heure. En quoi ça arrive même au meilleur.
Non, c'est peut-être moi qui n'ai pas bien précisé à quelle heure commence l'apéro le vendredi.
Voilà, donc effectivement, il y a des changements de micro et on s'installe. Je vais meubler un peu la conversation. Voilà, on se fait des politesses de où est-ce qu'on s'assoit autour de la table. Il y a deux personnes qui se lèvent pour présenter leur place. Finalement, voilà, l'invité a choisi.
Commentaire sportif.
Simon a choisi, s'il vous plaît.
Mais je pense qu'on va le laisser se présenter ou
oui.
On va laisser la parole, juste le temps qui reste.
Ouais, tout à fait. Donc, un invité qui était présent pour ce soir, nous avons la joie d'avoir Simon avec nous.
Bonsoir.
T'as aussi ton pseudonyme. Mince, je vais ton pseudonyme. Sur les internets, tu t'appelles comment?
Ça dépend lesquels. Hein. Dans le groupe, je suis Simon Aki, mais voilà. Ouais.
Par exemple?
Non, en général, je ne suis pas anonyme. Je m'admets sur mon nom. Donc...
Est-ce que... Donc, pour faire un brin d'introduction quand même, hein, parce que on vient de le faire un peu à l'arrache. Du coup, tout est une histoire qui a commencé à partir d'une affiche où on se rendait compte qu'il y avait une seule partie qui se présentait à Braine-le-Comte et qu'il y avait une demande d'aide pour être des soutiens aux personnes et personnes qui allaient se présenter. Et déjà, j'invite tous les Bruxelles et Bruxelloises qui nous entendent, si vous avez un peu de temps, consacrer du temps aux install parties qui sont en dehors de Bruxelles, et je ferme la parenthèse là-dedans. Et donc ma première question pour toi, c'est d'où t'es venue cette idée-là?
Ce qui s'est passé autour de moi, je crois à peu près comme pour tout le monde, c'est qu'il y a eu un peu un choc des consciences en début d'année, en janvier-février, où beaucoup de gens se sont rendus compte qu'en participant aux réseaux sociaux commerciaux, en fait, ils participaient à un projet politique. Là où avant ils pouvaient se questionner sur la publicité ou le fait d'être dans un environnement commercial, tout d'un coup est arrivé assez brutalement le fait que participer à ça, c'était d'une certaine manière collaborer à un projet d'extrême droite suprémaciste.
Mondial.
Mondial en plus.
Connu, hein, voilà. Pas peur des mots.
Et qu'en plus, c'était quelque chose qui s'organisait au niveau international et donc qui n'était pas seulement un événement dans un autre continent, mais en fait qui touchait aussi ce à quoi on participait ici en Europe. Donc moi je suis plutôt dans un milieu culturel, on va dire, d'artiste, de musicien, je suis luthier comme profession principale. Et donc suite à cette prise de conscience, en fait il y a énormément de gens qui ont quitté massivement ces réseaux, dont moi, où j'étais présent là-dessus, on va dire principalement à but professionnel, quoi, pour parler de mes projets, de mes groupes, de mon atelier, etc. Et vu qu'il y a eu en fait ce départ qui s'est organisé de façon massive, mais moi il se fait que techniquement j'ai des compétences, donc j'ai vite retrouvé les moyens de reconstruire, on va dire, une audience alternative pour mes projets. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Il y a énormément de gens qui ont créé un compte Mastodon que j'ai vu arriver, et puis en fait qui postaient jamais parce qu'ils étaient complètement perdus.
Et repartir aussi vite.
Voilà. J'ai trouvé ça assez dommage. Je me suis dit qu'il y avait une occasion de faire se rencontrer un petit peu les milieux, les technologies du libre et le monde de la culture qui étaient à prendre particulièrement pour le moment. Et donc, je me suis dit, je vais déjà faire un truc avec mes copains, avec les gens que je connais autour de moi, leur proposer un moment où je serai là l'après-midi pour tous ceux qui ont envie de se barrer de ces trucs-là et reconstruire autre chose. Je vous aiderai comme je peux, on discutera, etc.
Comment ça a été accueilli autour de tes proches de cet après-midi? Il y avait cette possibilité-là qui était envisageable?
Alors, suite à ça, moi j'étais franchement énervé, hein, par rapport à la situation internationale, par rapport au revirement. Après, on m'a dit, mais c'est pas un revirement, ils ont toujours été comme ça. Mais enfin, il y avait quand même tout d'un coup un truc qui m'a vraiment mis en colère. Donc j'ai produit une affiche et j'ai invité à quelque chose d'assez énervé sur le plan visuel. Et en fait, j'ai eu du coup énormément de retours autour de moi. Je me suis rendu compte que, enfin, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah mais oui, il faut absolument qu'on en parle. On ne sait pas quoi faire. Des jeunes des studios de musique qui me disent « Ah mais non, oui, nous on se questionne aussi. Spotify et tout, ça ne va plus. » Les gens qui sont sur Facebook, etc. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui étaient en fait complètement désemparés avec l'idée « Il faut se barrer de ces trucs-là. » Mais... sans du tout savoir comment on fait, et dans le milieu de la culture, c'est assez critique. Donc si on n'existe pas au niveau de son projet et qu'on n'arrive pas à relier avec son audience, en fait, on perd beaucoup. La présence sur Internet dans les projets culturels, c'est une présence assez critique pour la viabilité du projet. Et donc la question devient assez importante. Et donc j'ai plutôt eu énormément de retours. Heureusement, depuis, ça s'est quand même un peu tassé. Il y a aussi plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais finalement, je ne serai pas là, j'ai ma grand-mère qui m'invite, etc. » Donc, j'ai aucune idée de combien de monde on sera, mais c'est vrai qu'au début que j'ai commencé à flyer avec mon affiche énervée, en fait, j'ai eu peur à un moment qu'on soit une cinquantaine ou une centaine dans mon atelier ce jour-là et que ça devienne complètement ingérable pour moi. Et ça dépassait, en fait, le cadre de mes 10 potes et puis moi qui leur expliquais comment mettre F-Droid et comment démarrer sur Mastodon, quoi.
T'es peut-être trouvé dans l'inverse, 50 libristes qui vont débarquer et 10 potes.
Au final, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Mais, j'ai été trouvé Olmeu à Soigny, qui n'était pas loin, et tout, qui m'a dit bah, écoute, contact, voilà, qui m'a donné les contacts de tactique d'abord, qui m'a dit bah, va voir là-bas s'il ne peut pas y avoir quelques personnes. Lui, il m'a dit qu'il serait là aussi pour me prêter main forte. Voilà, moi ça m'a fait du bien de savoir que j'allais pas me retrouver tout seul finalement à devoir gérer ça et qu'il y allait avoir des compétences techniques diversifiées qui sont bien plus importantes que juste les miennes sur ces questions, qu'on allait pouvoir avoir du contenu écrit, politique, etc. Et donc j'ai un peu remodifié ce à quoi j'invitais depuis, de savoir que j'étais pas tout seul. J'ai dit à tout le monde, bah écoutez, il y a une série de personnes qui vont venir, qui ont des postures d'expertise sur la question, qui connaissent bien le logiciel libre, qui connaissent bien les enjeux numériques, qui seront là ce jour-là. Et donc, moi, je cherche plutôt à avoir, du coup, bah, le petit monde de la culture de Braine-le-Comte, tout ce qui rayonne un petit peu dans les communes alentours, leur disant, bah, écoutez, c'est l'occasion de venir réfléchir à votre usage des réseaux sociaux, de venir... vous confronter en fait aussi aux difficultés, enfin de partager ensemble les difficultés qu'il y a à quitter les réseaux commerciaux et à intégrer les réseaux libres, parce qu'en fait il y a un double mur qui se produit. Et alors aussi bah, éventuellement d'envisager aussi des projets, des perspectives et tout entre les gens qui seront présents ce jour-là.
Donc là, ce 30 mars, c'est saison 1, épisode 1.
Grosso modo. Ben, ce sera peut-être la dernière saison aussi. Voilà, moi j'étais chaud pour faire, en tout cas pour lancer cet épisode, proposer en fait un espace de réflexion un peu donc entre le monde de la culture et le monde du logiciel libre. Particulièrement, je vois que depuis que j'ai fait mon invite, il y a énormément de théâtres bruxellois qui ont fait le pas. Les théâtres flamands surtout, le CAI, le Burskoburg, le théâtre 140, qui sont venus aussi sur Mastodon. Donc je pense que la question, le sujet est chaud dans le milieu de la culture, c'est clair. Et tout le monde est prêt à faire le pas, mais il y a aussi plein de choses où je me rends compte que Mastodon n'est pas du tout adapté. Il y avait, dans mes discussions avec les gens, je vois qu'il y a aussi toute une série de choses qu'ils allaient chercher sur les réseaux commerciaux, qu'ils ne trouvent pas, même au-delà de la barrière technique, sur les réseaux libres, pour diverses raisons. Une des choses qu'ils ne trouvent pas, c'est, par exemple, c'est un espace relativement populaire et neutre politiquement. C'est-à-dire que, et ça, moi, je le constate aussi, quand même, mine de rien, quand on va sur les réseaux du fait divers, on a un shift à gauche assez fort au niveau politique, qui n'est pas problématique. Moi, ça m'a plutôt fait du bien d'aller lire tout ça et d'avoir, on va dire, ce contenu-là qui m'arrive en priorité. Mais qui n'est pas spécialement le besoin d'un groupe de musique, d'un centre culturel, etc., qui invite à un projet artistique et qui ne souhaite pas spécialement être sur un espace orienté politiquement.
Est-ce que les espaces des GAFAM sont neutres? Moi, j'ai une réponse à ça. Mais c'est actuellement, de ce que je comprends, de ce que tu expliques, c'est qu'actuellement, vécu par le monde plutôt... artiste, c'est pas vécu pour eux, enfin, les GAFAM sont un espace neutre.
Non, ils ne le sont plus du tout, mais ils l'étaient considérés avant, oui, globalement. C'est-à-dire que c'est le truc où il y a la mamie, le frère, le cousin, et il y a aussi ton potanard, etc. En fait, le potanard n'était plus trop sur Facebook, mais il y avait l'impression, ou l'illusion en tout cas, que c'était un espace où tout le monde se trouve. Et le fait divers donne moins cette impression. Alors, est-ce qu'on est en train de polariser complètement ces réseaux avec l'extrême droite qui va sur X voilà, c'est un peu, je pense, les lignes sont en train de bouger, mais on n'a plus une agora, on va dire, qui peut être considérée en termes d'utilisateurs comme étant monsieur tout le monde, quoi. Ça fait partie des choses qu'on me remonte, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à entamer ce travail de fly autour de cette rencontre, c'est que ça m'a ouvert énormément de discussions avec plein de gens sur le sujet, et que c'est finalement assez passionnant. Et assez intéressant ce qu'il y a moyen de tirer de tout ça, parce que c'est vrai que la technique en général, c'est un peu le truc qu'on considère que ça doit marcher et puis dont on évite les discussions et les enjeux dessus. Il y a quand même beaucoup de monde par exemple aujourd'hui, si on est écolo, on va être quand même féministe aussi un petit peu, enfin pas obligatoirement, mais il y a une espèce d'idée que quand on est dans une démarche sur un sujet, on va un peu travailler les autres aussi. Et c'est comme si la technique, non. Voilà, on peut aujourd'hui être à peu près militant sur tous les sujets et quand même faire ça sur Facebook, par exemple. En tout cas, jusqu'à peu. Alors, c'est devenu moins vrai à cause de ces changements de début d'année. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir un intérêt à accompagner, en fait, en tout cas, et à profiter un peu de cette aubaine pour réintégrer la technique dans les enjeux de tout le monde.
Oui, c'est ça, de pouvoir préciser que la technique n'est pas neutre du tout, quand bien même le façadisme publicitaire et le marketing de ces grosses multinationales qui en veulent beaucoup à nos données personnelles. Et je notais sur le côté, effectivement, le problème de la dopamine, la petite série sur Arte qui explique quels rouages psychologiques sont utilisés à outrance pour qu'on reste accro, justement. Et que ce qui faisait l'apologie aussi des réseaux sociaux, tu dis commerciaux, moi je dis industriels. Mettre l'artisanat de l'autre côté, commerciaux, on pourrait dire libre, enfin, ou gratuit. oui, c'est faire une petite cure de sevrage sur Mastodon, c'est effectivement pour sortir de l'algolisme de ces grosses boîtes qui nous mettent directement. Avant, j'étais algolique, maintenant, l'algorithme, c'est moi.
C'est pour ça que j'avais proposé le dégagisme comme intitulé. J'aime beaucoup, en fait, je parle de la... Alors, ça pose une ambiguïté, je me suis fait un peu agresser aussi parfois avec cette affiche, donc j'ai revu ma com' en partie. Donc le dégagisme, moi je le voyais comme la définition de Laurent Durcel, donc le fait de dire à celui qui occupe la place du pouvoir qu'on souhaite qu'il s'en aille, mais pas parce qu'on veut prendre sa place ou qu'on pense qu'il y a mieux, mais simplement parce qu'on souhaite pouvoir contempler le vide et voir ce qu'il advient à partir de ce vide. Mmh. Et donc la réflexion qui est menée avec les gens que je rencontre et tout ça, pour certains, c'est effectivement de sortir des réseaux sociaux et de se dire non, en fait, les gens qui vont venir à mon projet, ils viendront parce que je les croise, parce que je vais dans le tiers-lieu du coin à la soirée slam et que je les vois, parce que je fais des flyers, etc. Et qu'en fait, la solution n'est pas de remplacer un réseau social par un autre. Maintenant, par ailleurs, moi, en réfléchissant sur cette dopamine et discutant sur ces questions-là, il y a un déficit de dopamine possible aussi dans Mastodon. Je pense que je suis plutôt... on dirait anti-prohibitionniste sur les drogues, et je pense que c'est vrai pour la dopamine aussi, c'est-à-dire que je revendique le droit de se droguer un peu aux réseaux sociaux et à ces petites doses d'amour qu'on reçoit en tant qu'artiste, parce que au final, c'est aussi pour ça qu'on y va, c'est d'aller chercher un retour, et je vous avoue que moi, au début, sur Mastodon, je me disais, comment est-ce qu'on va se retrouver sur ce truc, parce qu'on a l'impression de tous parler tout seul, il y a tellement peu de retours, en fait, sur les publics, la majorité des publications qu'ils ont posées, que ça donne l'effet un peu inverse, il y a un côté un peu triste, je parle dans le désert, et que je pense que c'est pas non plus... Alors, il y a des effets pervers à la dépendance aux réseaux sociaux, mais il y a aussi, quand même, on va dire, un effet... sympa et bénéfique à se dire que nos amis voient ce qui se passe par rapport à nos projets, nous donnent des retours, nous disent mm-hmm. Il est trop beau ton costume, génial. Des trucs qui sont futiles peut-être, mais qui font du bien en partie. Et voilà, j'ai pas de réponse à ça, mais je pense que ça va être problématique si en même temps on s'évertue à systématiquement casser aussi cette petite dose de dopamine que procure le lien numérique. Dans certaines situations.
Oui, mais ce que j'aime bien de Mastodon, un des slogans, des sous-titres, c'est « L'algorithme, c'est vous ». Il n'a pas été écrit, justement, en ligne de code, on en parlait il y a une demi-heure ici même, il n'a pas été écrit, justement, pour être le plus roublard, le plus vicieux, le plus pervers, le plus aguicheur, le plus... Le problème de ces réseaux sociaux commerciaux, c'est que ce sont des interfaces publicitaires, donc il faut effectivement attirer le chaland d'une manière ou d'une autre, et on a du putaclic, on a...
Ça vit tout seul, hein, c'est ce que je dis aux gens qui vont sur Mastodon, ils font « mais c'est mort » et tout, je fais « oui, mais le truc ne va pas s'animer tout seul, Facebook ça s'anime tout seul, même si tu n'as pas d'amis, il va quand même t'envoyer des hordes d'images pour t'attirer, tandis que Mastodon, tu dois aller créer ton truc. » Moi, je trouve ça assez reposant, hein, en fait, au final, de pouvoir gérer mon fil, de ne pas être pollué, de faire mes petits groupes et mes listes, etc.
Et puis les colonnes avec les hashtags qu'on a le plus envie de suivre.
Ouais, voilà.
Il y a de recevoir ceux des amis et des potos.
Et c'est très ouvert aussi, c'est-à-dire qu'on suit aussi bien des personnes qui ne sont pas du tout dans notre réseau géographique que les proches, etc. Donc. Moi, ça me fait du bien, mais ça semble pas du tout être évident pour la plupart des gens qui ont fait cette démarche.
Voilà, d'où l'intérêt donc d'aller à Braine-le-Comte ce dimanche 30 mars 2025.
Voilà.
Précisé en cadre d'IF.
Et du coup, je sais pas si Duminus, Cello, Chat, vous avez des questions à poser ou des intrications ou des envies.
Moi, j'aurais envie de dire plein de trucs. Mais
t'as droit à une minute.
J'ai droit à une minute. Mais oui, par rapport à un peu à ce vide d'arriver sur Mastodon, moi je sais que c'est quelque chose. Quand j'y suis arrivée, du coup c'était en 2017, qui m'avait vraiment beaucoup perturbée au début, parce qu'effectivement, en fait, on s'attend à poster un truc et à avoir directement un like qui vient sur sa publication. Parce qu'en fait, c'est organisé de telle façon que on publie et en fait, ça affiche automatiquement la publication aux gens qui ont plus de chances d'interagir. Donc forcément, on interagit. Et c'est vrai que sur Mastodon, comme tout est chronologique, parfois, oui, on va rater des choses ou alors on remonte vraiment toute sa TL. Et parfois, en fait, même je me suis rendu compte, on va pas forcément tout liker non plus. On va pas forcément, et du coup ça crée un peu un sentiment de on parle dans le vide, on parle à la personne, et je pense qu'en fait c'est pas le cas, et c'est aussi une habitude qu'on a prise avec les réseaux de type Facebook et consorte, que d'ailleurs quelqu'un me disait récemment qu'on devrait peut-être pas appeler réseaux sociaux mais plutôt plateforme de masse, pour dire que c'est peut-être finalement pas un truc social, parce qu'en fait derrière c'est quand même des grandes entreprises qui ont envie de susciter de l'engagement. Mais du coup, je pense que aussi à terme, en fait, on peut décorréler finalement un peu cette espèce de besoin de reconnaissance via un like, avec le fait que on poste, on n'a pas forcément beaucoup de likes, mais en fait, ça ne veut pas dire que les gens ne voient pas et n'apprécient pas les contenus qu'on poste, mais qui est en fait une démarche super difficile. Et moi, ça m'a pris quand même beaucoup de temps aussi, donc je pense que c'est une vraie question, et encore plus dans le milieu artistique ou vis-à-vis de gens qui vraiment utilisent l'outil pour faire leur com, pour parler de leur spectacle, parler de leurs outils artistiques, enfin de leurs travaux artistiques et tout, c'est quand même vraiment compliqué. Mais je pensais par exemple, peut-être je te laisse la parole aussi d'Humulus, parce que tu disais qu'en graphisme, par exemple Instagram, c'était vraiment une vitrine aussi.
C'est vrai, moi je suis encore étudiante, mais c'est vrai que tout étudiant fait son portfolio sur Instagram, cherche des stages sur Instagram, tous les studios sont sur Instagram, et du coup c'est une façade difficile. C'est, comme tu l'avais bien dit, sortir de ça c'est extrêmement compliqué d'une manière professionnelle, et en même temps c'est réel qu'il y a peu de communication sur les réseaux. Il y a du like, il y a de la validation, mais il n'y a pas vraiment, moi je pense à Instagram particulièrement, mais il n'y a pas de partage ou de communication, on n'avance pas, on se valide seulement. Et peut-être que Mastodon, là, répond en disant on peut parler ensemble, ce qui n'est pas vraiment possible, je trouve, avec des likes.
Oui, il y a aussi pas mal, au final, d'artistes et de centres culturels qui m'ont dit que ça ne marchait plus. non plus pour eux de publier sur Facebook. C'est-à-dire qu'ils annonçaient l'événement, puis les rares qui le voyaient, ils le voyaient le lendemain, trop tard. Que c'est vu ça. Qu'il y avait tellement de pubs qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui avaient toujours un compte, mais qui n'y allaient plus. Et donc, si c'était peut-être fonctionnel, on va dire d'un point de vue purement d'audience, il y a quelques années, ça s'était très fortement dégradé. Et il y a autre chose à reconstruire, je pense, de fonctionnel. Parce, par exemple, je sais pas moi, en arrivant sur Mastodon avec mon petit atelier de lutherie, finalement, je me mets naturellement à chercher les luthiers, et puis je vois qu'il y en a pas beaucoup. Mm-hmm. Donc, je crois que si je suis un peu actif en termes de luthier sur Mastodon, je vais très vite un des luthiers actifs de Mastodon. Il faut pas que je mette parce qu'il y a personne pour le moment sur le sujet.
Peut-être que ce vide, il est ultra bénéfique parce que ça veut dire qu'on a encore une nouvelle possibilité de recréer des contacts, des liens avec des gens. Qui n'était plus là, qu'on ne pouvait pas accéder.
Quelque chose de nouveau, oui.
Et peut-être de plus commun, collectif, on pourrait.
Mais pour refaire du lien, par exemple, le CMEA et son festival superbe Soif d'idéal, dont, par exemple, demain, il y a un très 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 beau dessin animé de 30 minutes qui sera projeté à la salle Mercelis de la rue du même nom, dans le théâtre de la rue Mercelis, près de la place Van Gogh. Et donc, Ada et moi, je confonds toujours Zangman. Hein.
Je trouve que je viens d'une transition sur l'agenda qui est absolument éblouissante.
Oui, oui, oui. Mais oui, parce qu'on va, donc, en termes de date, donc ça c'est l'un. Dimanche, Install Party, BX Lug, FIJ, rue de Franz Geyer à Saint-Gilles. Et alors là, on en arrive donc au 30. Il y avait encore une date avant ?
Entre parenthèses tactiques, on fait un atelier du coup, qui sera à la cafétéria collective
à Liège.
À Cali, à Liège. Donc peut-être moins notre public bruxellois, mais voilà aussi sur cette question de sortir des réseaux sociaux ou des plateformes de masse, selon l'appellation qu'on leur donne. de dire comment on s'organise et comment on peut faire ça collectivement. Mm-hmm. Donc voilà, c'est des questions qu'on commence vraiment à travailler aussi.
À l'international, donc sortir de Bruxelles.
Alors, et donc après, je ne sais pas.
Simonaki, là, on est donc rue de l'Industrie, juste à côté de la gare de Braine-le-Comte.
Oui, à la descente du train, c'est 30 mètres plus loin.
Pour revenir un petit peu en arrière, selon que vous venez de Bruxelles ou de Halle, d'Anguien. Et donc, c'est dimanche le 30 mars.
14h-18h,
au 41 rue de l'Industrie.
Tout à fait.
Voilà, et donc venez avec vos ordi portables, de poche ou de bureau.
Oui, voilà, ça terminera peut-être en install party, ça terminera juste en discussion. J'ai plus aucune visibilité sur ce à quoi ça va ressembler. Il y a quand même pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils seraient là. Voilà.
Merci Frédéric, merci Céle, merci Simon, merci...
Chad
et
Dumilus.
Je vais louper. Et on dit maintenant coucou à On the Road avec Stéphane. Et oui, la transition un peu brute, mais le temps est compté.